Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Deux chavannes cherchent copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, hommes ou femmes politiques, même président, hein, vous voyez, en toute simplicité de président. Oui, mesdames, messieurs. Et puis des TikTokers. Alors, des TikTokers. Je kiffe. En fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Ouais. De chavannes cherchent copains. Des copains. De chavannes cherchent copains.
Christophe de Chavannes et Raphaël Glucksmann ont été très bavards. Voici la suite de l'entretien dans cet épisode 2.
Raphaël Glucksmann, tous ces jeunes, ces millions de jeunes dans le monde, dans la rue, ça fait bouger quoi? Tout le monde se fout de la gueule de Greta Thunberg qui est formidable.
Et sans Greta Thunberg, je ne suis pas sûr qu'on vote les lois sur la déforestation au Parlement européen, c'est-à-dire l'interdiction de tous les produits de la déforestation. Je ne suis pas sûr non plus qu'on interdise les véhicules thermiques au Parlement européen. Donc, je pense qu'en fait, ils ont un impact. Je me souviens, par exemple, quand on avait fait une campagne, on a demandé à tout le monde de partager des petits carrés bleus sur les réseaux sociaux pour dire, en gros, ça nous intéresse les Ouïghours. Et il y avait plein de militants politiques professionnels qui commentaient et qui disaient « Ah, vous pensez vraiment que vous allez changer quelque chose avec vos carrés bleus ?» Et bien, en fait, je pense que ça change parce que les politiques, leur première préoccupation, c'est d'être réélus et de plaire à leurs électrices et leurs électeurs. En fait, quand tu leur montres que c'est important pour toi, ça a un impact sur leur prise de décision. Et je pense que les rares mesures importantes qu'on a prises sur le climat n'auraient pas été prises s'il n'y avait pas eu ces mobilisations dans les rues.
Et quand Donald Trump, élu à peine le lendemain de son élection, déchire les accords de Paris.
Ça a un impact sur des dirigeants qu'on... Bah, Donald Trump, il a des convictions climato-sceptiques.
Il a des vraies convictions ou est-ce qu'il surfe sur une vague qui porte?
Il est deux en même temps. Mais je crois qu'il a des convictions profondément xénophobes et climato-sceptiques. Ouais.
Si tu n'étais pas député européen aujourd'hui, tu serais quoi?
Je pense que j'aurais continué ce que je faisais, c'est-à-dire que j'aurais écrit des livres.
Et ce que tu fais peut t'amener où, politiquement parlant?
Déjà, je sais pas, à nouveau au Parlement européen, sûrement, enfin j'espère. Je sais pas, pour moi c'est une question ouverte. C'est-à-dire que,
ton idéal,
évidemment, des fois je suis frustré de me dire, ok... On arrive à faire bouger des choses au Parlement européen, on arrive à passer des lois qui sont bien, on arrive à... Mais ça va lentement et peut-être que par la France, on aurait un pouvoir plus rapide et tout ça. Mais en même temps, moi, je ne suis pas très à l'aise dans la scène politique française, quoi. Je suis un peu une sorte d'ovni et j'ai l'impression qu'au Parlement européen, je peux faire de la politique sans sacrifier quoi que ce soit de ma liberté de parole.
Et tes collègues sont différents des parlementaires français?
Ça dépend lesquels.
Est-ce qu'il y a plus de liberté, en gros, au Parlement européen
incontestablement.
Que les députés français?
Et déjà, physiquement, t'es sorti de Paris. Je pense qu'il y a
Tu es à Bruxelles.
Oui, mais ça a un effet, déjà. Ils prennent le train, donc ils ne sont pas dans la routine de leur parti politique. Et ça, si tu veux, je pense que ça enlève du réflexe pavlovien d'appartenance politique. Ensuite, tu traites de sujets qui ont un impact immense sur la vie des gens, mais qui sont pris depuis un angle plus général.
Un petit soda.
Un petit soda, avec plaisir.
Un petit... Psh.
Et donc, je crois que le comportement est différent. En plus, tu sais, c'est un Parlement sans majorité. C'est-à-dire que tu es obligé de construire une majorité sur chacune des lois que tu portes. Tu n'as pas une majorité d'une opposition au Parlement européen.
Oui, c'est pas cousu d'avance.
Moi,
quoi.
Je vais aller parler à des conservateurs slovaques pour qu'ils votent les projets que je porte. Et du coup, ça t'oblige à pas être dogmatique. Ce qui tue le discours de gauche, à mon avis, c'est que c'est tout le temps les mêmes phrases, tout le temps les mêmes mots qui sont répétés sans cesse. J'ai l'impression que tu peux mettre une pièce dans le jukebox, toi, quand tu les reçois, et tu sais ce qu'ils vont me dire à l'avance.
Mais quelle gauche? Pourquoi elle est morte, cette gauche?
Je pense pas qu'elle soit morte, je pense que c'est son langage qui est mort, là. Il y a un anthropologue qui s'appelle Pierre Clastre, qui étudie les sociétés amazoniennes. Et il étudie en particulier la figure du chaman. Le chaman, c'est censé être la figure du chef, mais en fait, il a aucun pouvoir, il est posé au milieu du village, et il parle une langue que personne ne capte dans le village. Donc, il parle un truc très bizarre, et les gens passent, regardent, des fois, ils l'engueulent, des fois, ils se marrent, mais en gros, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai très peur que la gauche devienne ça. C'est-à-dire que c'est un peu le chaman, c'est que tu les poses, là, tu sais très bien comment ils vont parler, et finalement, personne ne prête plus vraiment attention à ce qui est dit.
Oui, mais la catastrophe, c'est que ça éloigne les gens de la politique.
Bien sûr.
Pour aller jusqu'à le risque qu'on connaît.
Soit l'abstention, soit le vote facho.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si la France devient un pays avec des élus d'extrême droite?
Bah déjà, on peut se demander ce qui se serait passé là.
Ah, on n'est pas passé loin.
On n'est pas passé loin, mais en pleine guerre en Europe, avec
L'Ukraine leur serait russe.
Ouais, leurs parrains. Oui, mais c'est pas que l'Ukraine le problème. C'est-à-dire que l'Ukraine serait dans la merde, enfin, ce qu'elle est déjà...
Mais je veux bien qu'on en parle deux secondes de l'Ukraine, parce que... Ouais. Je te laisse finir.
Mais parce que leur parrain, Vladimir Poutine, son objectif n'était pas que l'Ukraine.
Non, c'est l'Occident.
Voilà, c'est l'Europe en tout cas.
Oui, oui, l'Europe occidentale.
Ouais. Et donc, on aurait eu des amis de celui qui cherche à...
À détruire les démocraties.
Ouais, à détruire nos démocraties, ouais. À la tête de nos États. Donc t'imagines la catastrophe, c'est même pas la peine de faire de la projection, il suffit de se demander qu'est-ce qui se passerait maintenant...
Si Trump revenait.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Europe. C'est-à-dire que tous les gens qui pensent qu'il ne faut pas construire cette défense européenne sont des gens qui misent l'avenir de nos pays sur des élections dans le Michigan. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on aurait fait si c'était... Trump et pas Biden à la tête des États-Unis, qui sont encore pires que Marine Le Pen à la place de Macron en France. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On était infoutus de résister, tout seul.
Oui, enfin, et l'Ukraine encore moins.
Mais l'Ukraine, donc, ce que je disais sur l'absence de fermeté de nos dirigeants. Imagine ce que ça veut dire de nos dirigeants européens qui, du coup, font dépendre notre sécurité d'élections américaines dans le Michigan. Et tous les 4 ans, on va assister à cette scène pathétique de voir l'ensemble de l'Europe passer une nuit blanche pour attendre le résultat des élections aux États-Unis. Ben moi, je ne veux pas que mon avenir dépende d'électeurs du Michigan qui n'ont rien en commun avec moi.
Comment est-ce possible autrement, aujourd'hui?
Il faut construire une Europe capable de se défendre elle-même. Les États-Unis nous font défaut, si c'est Trump le président des États-Unis, il faut que l'Europe soit capable de
faire sans lui.
Ouais.
De faire sans eux.
Ben, aujourd'hui, de devenir adulte, quoi.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Mais économiquement, on est infoutu de fabriquer les armes... Que fournissent les États-Unis, notamment à l'Ukraine.
Aujourd'hui, on est infoutu de fabriquer des masques, on est infoutu de fabriquer du Doliprane, on est infoutu de fabriquer du curare, on est infoutu de fabriquer les munitions dont on aurait eu besoin pour l'Ukraine. Oui, aujourd'hui, on est infoutu de produire. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu essentiel de l'Europe
et
de la politique, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconquérir une forme de souveraineté? Comment est-ce qu'on fait pour à
oui,
nouveau
là,
être capable de produire.
C'est quoi la réponse?
Il faut sortir de l'idéologie du libre-échange généralisé. Il faut dire que désormais, on fait un Buy European Act, c'est-à-dire qu'on réserve les marchés publics aux producteurs européens. On met une taxe carbone dissuasive aux frontières de l'Europe. On a des grands projets d'investissement pour réindustrialiser notre pays. On comprend que l'écologie, ce n'est pas juste l'environnement immédiat autour de chez nous qui est le moins de pollution possible. L'écologie, si c'est une lutte contre l'effondrement climatique, ça doit vouloir dire rapatrier la production chez nous.
Mais comment tu peux exiger des Chinois qu'ils polluent 80% en moins? Quand on arrive sur Shanghai en avion, la ville.
Je vais te dire un truc bateau. Aujourd'hui, déjà...
Comment tu fais pour interdire des milliers de supertankers qui polluent comme 3 millions de voitures ou 30 millions de voitures?
Regarde, aujourd'hui, la Chine est donc le principal pollueur du monde, mais en réalité, c'est aussi notre pollution qui est en Chine. Parce que tant qu'ils produisent tous nos biens, effectivement, ils polluent quand ils produisent nos biens. Mais nous, c'est facile de dire qu'on respecte les trajectoires.
Okay.
Tant qu'on fait tout produire ailleurs.
Mais comment la France peut produire en France avec les charges qu'elle a? Tout d'un coup 2%
de marge. Tu ne vas pas tout ramener en France. Mais déjà, sur les industries, les secteurs stratégiques, tu ramènes en Europe. Ça veut dire que tu arrêtes de dépendre à 100% de pays non européens pour nos médicaments. Tu arrêtes de dépendre à 100%.
Donc, est-ce que c'est possible?
Mais oui, c'est possible.
Techniquement.
Mais oui, tu fous des taxes, tu sors de cette folie d'ouvrir, ouvrir, 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 tu fous des taxes et tu subventionnes ton industrie.
Mais Macron le sait bien, ça.
Oui, mais il le dit aussi en
partie. Oui, mais le dire, comme disait l'autre, le dire, c'est bien. Non, mais le faire, c'est mieux.
Après, tu vois, tout à l'heure, je le critiquais beaucoup. Là, je ne pense pas que ce soit celui qui ait la position la plus mauvaise sur le sujet. Et donc, le seul problème, c'est que si tu fais ça, tu vas faire perdre certains grands groupes qui ont construit leur business model sur les délocalisations.
Moi, je me rappelle de l'époque de Marjorie, patron de Total, ouais, dont on racontait. Il allait voir Bercy en disant « Si vous me taxez, je délocalise. » Et Bercy fermait sa gueule.
Et c'est un chantage permanent des grands groupes. Et le politique s'est couché à chaque fois. Mais le résultat de ça, c'est notre affaiblissement total.
Pardon, j'essaie d'être complètement basique. Comment le politique peut accepter de dire « Bon, il y a 200 000 chômeurs en plus en 8 jours. J'exagère tout. »
Mais regarde ça, ils ont délocalisé. Les grands groupes, regarde, on subventionne Sanofi. Sanofi, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de l'État? Ils se barrent en Chine pour leur production. Et donc, en fait, on se fait rouler dans la farine en permanence.
Pourquoi on accepte alors?
Mais parce qu'on a peur de rompre avec cette logique et on a peur aussi de rompre avec ses intérêts. Mais en réalité, ce qui produit le chômage, c'est pas un patron qui fait un chantage. Je délocalise. Non, mais il délocalisera pas ses pompes. Il pourra délocaliser un minimum d'activité peut-être. Mais ce chantage-là, il faut le refuser. Et ce qui produit le chômage, ce qui produit la faiblesse industrielle, c'est précisément un modèle qui fait que nos grandes boîtes vont déménager leur production ailleurs. Et en particulier, c'est le cas depuis 30 ans, en Chine. Et ça, ça nous a créé à la fois un drame social et une situation de faiblesse politique et de faiblesse en matière de souveraineté.
Et un problème climatique et environnemental.
Et un problème climatique et environnemental. Et moi, donc, l'espoir que j'ai, ce que nous demande l'écologie, le social ou la quête de souveraineté politique, c'est la même chose. C'est de rapatrier nos capacités de production. Souviens-toi, en avril 2020, on est tous sidérés par le fait qu'on n'est pas foutu de produire des masques, on n'est pas foutu de produire du curare, on n'est pas foutu de produire du Doliprane, qu'on a tout délocalisé et qu'on est devenu complètement impuissant. On a des pays européens qui se volent des masques sur les tarmacs. On a des soignants qui vont soigner les malades avec des masques Décathlon de plongée sur la gueule
et des sacs poubelles
en guise de blouse. Donc, il y a un sentiment comme ça d'humiliation qui est hyper forte. Et donc, on se dit, mais on ne peut pas être devenu ça. Mais après, on zappe. La même chose au début de la guerre en Ukraine. On se dit, mais attends, on s'arrête de vivre. Regarde, on essaie.
Oui, mais regarde,
c'est un
moment
de bascule.
Non, mais pardon, excuse-moi.
Et on zappe.
Non, la remontée du Covid, tout le monde pense, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument que les gens mettent les masques à minima dans les transports publics. J'ai demandé à Olivier Véran à l'émission, pourquoi vous n'obligez pas à nouveau à mettre les masques? Mais parce que, je dis, ben c'est politique. Non, c'est pas politique, parce que 50% serait contre de la population et 50% pour. Ben je dis, c'est justement pour ça que vous le faites pas. C'est donc totalement politique.
On va s'en sortir de cette pandémie, je suis d'accord avec toi, mais on va s'en sortir de cette pandémie. Par contre, ce dont on va pas sortir, c'est les faiblesses qu'a révélé cette pandémie. Et c'est les mêmes faiblesses que révèle la guerre. Ça fait 9 mois qu'il y a la guerre. On est déjà dans la merde pour fournir des munitions sur un front qui n'est même pas un front général traversant toute l'Europe. Donc, c'est-à-dire que si...
Oui, il y a des gens qui disent qu'on a déjà plus qu'un tiers des armes qu'on avait, qui étaient déjà pas énormes.
C'est-à-dire qu'on a laissé, même sur la question vitale de notre production, d'une capacité à nous défendre, les choses s'effilocher. C'est ça le sujet
mais là,
politique
en ce
centrale.
Moment, est-ce que tu sais, toi, au Parlement européen, est-ce que tu sais en ce moment si en France, on fabrique à nouveau des munitions, des armes, et qu'on prépare...
Je sais qu'on essaye, mais qu'on a du mal. Et je sais que donc, il va falloir rapatrier des capacités industrielles dans notre pays. Enfin, j'en suis sûr, pas seulement dans notre pays, d'ailleurs, sur tout le continent européen. Et que ça suppose des ruptures. C'est-à-dire qu'on a passé 30 ans à signer des accords de libre-échange, à ouvrir, à dire c'est extraordinaire la globalisation, c'est fantastique. Regardez, ça nous permet de consommer des biens bien moins chers. Mais ça a un coût énorme. Et le premier coût à payer, en dehors du coût climatique, c'est le coût de notre totale dépendance. Ça veut dire qu'en fait, quand les Chinois arrêtent les flux, nous, on ne sait plus rien faire. Et ça, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas vivre comme ça. Ça, c'est la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Je me souviens, c'est le
premier texte. Oui, mais chacun sa spécialité. Regarde, l'Ukraine ne produit plus de composants électroniques. Tu commandes une voiture aujourd'hui, tu as d'abord 18 mois. Tu ne peux pas tout savoir faire en France.
Non, pas tout savoir faire en France, mais ne dépendre en rien d'un seul pays pour tout ce qui est stratégique pour notre pays. C'est ça la règle. Or aujourd'hui, tu remarques qu'il suffit que les chaînes de production ou que l'exportation s'arrêtent en Chine pas dans tous les pays, en Chine.
Bah, le confinement.
Et du coup, tu te retrouves sans rien. Et ça, c'est impossible de faire ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre comme ça.
Combien de temps il faudrait pour que cette situation change?
Bah, déjà, il faut changer les règles maintenant. Donc comme ça, peut-être ça prendra du temps, mais au moins, on s'orientera vers
la bonne voie. Est-ce que ça n'a pas bougé avec ce conflit ukrainien? L'Europe s'est ressoudée un poil quand même.
L'Europe s'est totalement ressoudée pendant les premières semaines et les premiers mois.
Et plus.
Et aujourd'hui, ça reste plus ou moins uni, mais c'est des discussions de marchands de tapis. Et surtout, on ne casse pas les règles qui nous ont affaiblis. Quand tu vois que les Belges obtiennent l'exemption des diamants des sanctions russes, parce que ça nuirait à la place d'Anvers, ça renchérirait le diamant. Je veux dire, là, on ne parle pas d'un bien de première nécessité. Je comprendrais à la limite si c'était la farine et que ça créerait des émeutes partout en Europe.
Enfin, tu remarqueras quand même que depuis 3 ans, ceux qui ont vraiment, vraiment, vraiment gagné de l'argent sont les plus riches. Mmh. Enfin, étaient déjà les plus riches, qui sont devenus encore plus riches. Ouais. Ça, je pense que c'est l'apanage de tous les conflits.
Mais tu prends par exemple Total.
Qui est une société crado ou pas crado?
Qui est une société plus que crado. Total a multiplié par 3 ses bénéfices grâce à la guerre en Ukraine, a versé des dividendes 2,4 milliards à titre d'acompte sur dividendes exceptionnels à ses actionnaires. Et Total ne contribue pas à la solidarité ensuite face à la crise énergétique. Donc en fait, on est dans une situation...
Et Total va aux États-Unis faire des puits de gaz, de schiste absolument polluants, dégueulasses, qui foutent de l'asthme à des populations d'enfants. Parce que c'est interdit chez nous.
Et Total est en train de construire le plus grand pipeline chauffé du monde... en Ouganda, en Tanzanie, délocalisant plus de 100 000 personnes et détruisant des parcs nationaux. Total est en train de
faire promettant à tout le monde
des explorations des fonds marins en Afrique du Sud.
Dans l'océan au large de l'Afrique du Sud.
Oui, exactement.
C'est toi qui lance cette alerte.
C'est Claire Nouvian là-dessus avec Bloom, qui est une association qui travaille sur les océans. Et donc c'est elle la lanceuse d'alerte sur ce projet. Et moi, je suis juste là en relais politique. Mais Total, si tu veux, c'est l'exemple même de la faiblesse du politique. Le politique est ultra faible et a consenti à sa faiblesse.
Mais qui il faut trouver, à part des gars comme toi, donc il va falloir attendre que tu grandisses, que tu aies 10, 15 ans de plus, 20 ans de plus. Toi, tu es le président de la France demain.
Mais la première chose que tu fais, c'est que tu convoques les grands patrons qui ont délocalisé leurs industries en Chine et tu leur dis, écoutez, la fête est finie. Tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Oui. On va imposer des nouvelles règles.
Ou vous allez donc diminuer votre marge par 70%.
Voilà, vous allez diminuer peut-être pas par 70%. Mais en tout cas, déjà, je ne suis pas en train de te dire qu'on va tout relocaliser en France. Mais par exemple, un truc tout con. On n'arrête pas de dire, pour nous, c'est important la démocratie, l'état de droit, ça, c'est tous les discours européens. Notre politique d'investissement, la politique de nos entreprises, notre politique commerciale raconte l'antithèse de ça. Tu as la Tunisie. La Tunisie, sous Ben Ali, est un paradis pour la production textile et pour nos entreprises, d'accord ? Ben Ali tombe, la Tunisie s'ouvre à la démocratie, qu'est-ce que font nos entreprises ? Elles se barrent. Pourquoi elles se barrent ? Parce que d'un coup, t'as la liberté syndicale, t'as la liberté de la presse, t'as les gens qui protestent...
Donc t'es en train de dire qu'il fallait surtout pas descendre ces dictateurs ?
Non, je suis en train de te dire qu'au contraire, nous, on doit orienter les investissements, permettre des facilités ensuite pour l'importation des produits en fonction de nos intérêts politiques. Ça veut dire qu'en fait, on doit remettre le politique au-dessus du business.
Pour que les jeunes.
Et ça, collectivement, tu peux tout à fait le faire. Tu joues sur tes frontières. Enfin, je veux dire, ce truc de tout peut rentrer n'importe comment. Moi, j'étais au port de Rotterdam, là, pour voir comment on pouvait mettre en place le bannissement des produits de l'esclavage dans nos ports. C'est le principal port européen.
Ça veut dire bloquer des millions de paires de Nike au moment où elles arrivent.
Voilà. Et ce que je voyais, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout rentre.
Ce que tu dis est tellement important, tellement vrai, tellement juste pour le futur des jeunes qui nous écoutent notamment, qui te lisent, etc. Est-ce que ce combat, est-ce qu'il est jouable en vrai ? Qu'est-ce qui doit peser aujourd'hui ? Je suis sûr que tu crois en ce que tu fais, parce que sinon t'es cuit. Mais est-ce qu'objectivement, il peut se passer quelque chose sans qu'un mec comme toi arrive au pouvoir ? Et pour arriver au pouvoir, tu fais peur à tout le monde.
Il peut y avoir du chemin, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que de toute façon, rien ne se passera si on ne se bat pas.
Mais là, ces luttes-là, est-ce qu'elles sont nationalement connues ? Pardon, là, on en parle. Je suis très content. Parce que pour un peu qu'on soit écouté, au moins autant que tu sois lu, que tu es lu, ça veut dire que les gens, là, entendent des choses qui sont l'avenir des petits, quoi. Enfin, l'avenir des jeunes, l'avenir de l'Europe, enfin, tout ça.
L'avenir de tous.
Oui.
Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on devienne des adultes. Donc voilà, je pense que les gens qui nous dirigent ne sont pas encore des adultes. L'adulte, c'est quelqu'un qui est autonome, c'est-à-dire qui est capable de se défendre lui-même et de ne pas avoir besoin de tonton, au moins de problèmes.
Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on a besoin de tonton ?
Ça fait depuis toujours. En fait, oui. On a grandi à l'ombre
donc
de
tonton. Donc combien de temps ça va mettre pour
oui, mais le problème, c'est qu'à un moment, de toute façon, on n'aura pas le choix. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tonton, il va se barrer.
Alors, je voulais parler de l'Ukraine pour ça. Les gens, on sent cette petite musique en ce moment qui dit « oulala, on paye cher l'électricité, ça va être de pire en pire », car il est probable que ça va être de pire en pire. T'as un mec comme Michel-Édouard Leclerc qui sait à peu près de quoi il parle, qui vient de dire à la télévision que l'inflation, pour l'instant, c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Mmh. On est en train de dire que climatologiquement, on a eu l'été le moins chaud de tous les étés qu'on va vivre bientôt. Donc, on est dans une espèce de spectre totalement négatif, brun, sombre et nuagé. Et aujourd'hui, sur l'Ukraine, pour parler que de ça, il y a cette musique qui dit oui, non, mais après tout, quand t'es dans la merde, il y a des raisons, on va dire, presque humaines de penser que, oui, mais moi, quoi. Pourquoi je peux plus me chauffer à cause de l'Ukraine? Pourquoi je peux plus bouffer correctement, peut-être un peu à cause de l'Ukraine? Pourquoi je peux plus avoir une bagnole? Pourquoi l'essence, je la paye?
En l'occurrence, c'est à cause de la Russie, parce que l'Ukraine, ils sont pour rien.
Non, mais oui, mais sauf que c'est à cause de l'Ukraine, en gros. Enfin,
à cause de la guerre en Ukraine.
À cause de la guerre en Ukraine. Mais bien sûr que c'est la faute de la Russie, mais on dit jamais c'est la cause de la Russie. On dit toujours que c'est à cause de l'Ukraine, mais pas à cause du pays,
à cause de la crise.
Voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire passer le message aux gens qu'il ne s'agit pas seulement d'être solidaire? À la limite, il ne faut même plus y penser à la solidarité. Il faut en penser à nous dans 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Parce qu'on sait très bien que le but...
C'est mon plus grand reproche à nos dirigeants politiques. C'est que il aurait fallu, dès le début...
Oui, mais... OK.
Expliquer ce que je vais te dire maintenant.
Mais maintenant, il faut faire maintenant.
C'est pas l'Ukraine. C'est pas par solidarité humaniste qu'on doit se mobiliser.
Oui.
Et les cibles, c'est nous. Et on parle là d'un régime, si tu veux, qui est en guerre contre nous depuis des années.
Sauf que là, il actionne.
On a la matérialisation militaire de ce conflit en Ukraine aujourd'hui, mais la guerre, elle ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine, elle n'a pas commencé le 24 février 2022. La guerre,
elle est planifiée.
Beaucoup plus longue que ça et elle est présente au cœur même de nos cités. Pendant la pandémie, le régime russe a attaqué nos hôpitaux. Au moment où l'Agence européenne du médicament devait statuer sur les vaccins, les hackers russes ont attaqué l'Agence européenne du médicament. Comment est-ce qu'on qualifie les relations qu'on a avec un régime qui attaque nos hôpitaux en pleine pandémie?
Mais qui l'ont fait là encore?
Et qui attaque d'ailleurs les serveurs de la campagne d'Emmanuel Macron au cœur de la campagne présidentielle en 2017. Comment on qualifie...
En faisant croire que Macron a des comptes offshore.
Voilà, exactement. On est face à un régime dont la structure même, la nature, est d'être en conflit avec nous. Et si les Ukrainiens n'avaient pas résisté au bout de 3 semaines ou 1 mois, ce serait posé la question d'autres guerres. Les dirigeants militaires russes et les dirigeants politiques russes parlaient déjà de la Moldavie, de la Lettonie, la Lituanie, voire de la Pologne. Et donc, en fait, on est face à un régime de type fasciste qui ne s'arrêtera pas s'il n'est pas arrêté. S'il y a une seule leçon qu'il faut tirer de l'histoire, c'est qu'en fait, si tu n'arrêtes pas assez tôt ce type de régime guerrier, eh bien, de toute façon, tu auras la guerre chez toi. On n'aide pas les Ukrainiens parce qu'on aime les Ukrainiens, même si,
voilà,
franchement, il y a toutes les raisons de les aimer, de les admirer.
C'est le but de ma question.
Bien sûr,
là.
On les aide parce qu'en fait, on s'aide nous-mêmes.
Oui, c'est important.
Et on fait ça pour nous. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient intelligemment égoïstes. Je n'appelle pas là aux grandes causes humanistes. Ce que je veux, c'est qu'ils soient intelligemment égoïstes.
Ça veut dire qu'il faut apprendre aux Français qu'en fait, les efforts... Mmh. Et alors, Dieu sait que ça va être difficile pour les plus faibles d'entre eux, mais que ces efforts, ce n'est pas pour les Ukrainiens qui le font, c'est pour eux, leurs enfants et leurs petits-enfants.
Et
on est bien d'accord.
Et leur pays.
Et leur pays.
Chaque euro, par exemple, qu'on donne, qu'on transfère à la résistance ukrainienne est le meilleur investissement jamais réalisé dans la sécurité collective de l'Europe. Mais pour que ça fonctionne, pour que nos sociétés et nos cités soit suffisamment soudé pour produire un effort à long terme, parce que ça va être long. Il faut de la justice. Et ce n'est pas de la justice simplement par idéal de justice. Là, mon souci, c'est comment nos sociétés restent soudées. Et donc, quand il y a des profiteurs de guerre, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils contribuent à la solidarité.
Un exemple.
Il faut, Total. L'exemple, c'est pourquoi est-ce que moi, je suis pour une taxe sur les super-profits ? Pas parce que, à l'échelle européenne, pas parce que, simplement, je trouve ça injuste que des gens fassent du fric en situation de guerre.
Non, ce qui est injuste, c'est que ceux qui en font énormément n'en fassent pas profiter les autres.
Exactement. Et surtout dans une situation de guerre. Les sociétés occidentales, elles ont tenu en période de guerre quand elles ont inventé de fortes solidarités sociales. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Anglais inventent la NHS, la Sécurité sociale anglaise. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'est écrit le programme du Conseil national de la Résistance sur lequel on tient toujours aujourd'hui. Et donc, il faut aujourd'hui un effort de solidarité parce qu'on n'arrivera pas à traverser cette période-là qui va être extrêmement difficile sans sens de la justice, sans qu'il y ait une redistribution des richesses qui sont démentiellement mais accumulées par des groupes comme Total et qui, dans le même temps, rencontrent les difficultés croissantes des gens qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à acheter leur bouffe parce que ça, les prix explosent et continueront à exploser. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'à la limite, une politique de gauche est condition de possibilité de l'unité de la nation.
Technique.
Voilà, technique, efficace. Et donc, c'est pour ça que je ne comprends pas les réticences, tu veux, de nos gouvernants à imposer ces taxes sur les super-profits.
Mais parce que c'est politique.
Bien sûr, mais c'est une erreur. C'est pas simplement une faute morale ou je sais pas quoi, c'est une erreur, parce qu'en fait, on n'arrivera pas.
Pourquoi est-ce que tu crois qu'Emmanuel Macron, intelligent comme il est, ne dit pas « Ok,
on le fait ».
On le fait.
Parce que je pense que le principal problème d'Emmanuel Macron, c'est ses relations. Et que ce qui le bloque sur plein de sujets, c'est qu'il est trop proche des dirigeants des grands groupes qui auraient à payer. Et ça, c'est un vrai problème.
Qu'il sortirait grandi ?
S'il le faisait,
Il serait élu une troisième fois.
Non, mais il ne peut pas, ça.
Si, il peut, s'il s'arrête à moi.
Ouais, non, mais enfin, on ne va pas commencer à faire des trucs à la Poutine en France. Les deux choses qui manquent aujourd'hui, c'est d'abord un discours qui dit « Nous sommes visés, et si nous agissons pour aider les Ukrainiens, c'est pour nous qu'on le fait. C'est pour la possibilité pour nos enfants de vivre dans un continent en paix, qui ne connaissent pas les guerres qu'ont connues nos parents et nos grands-parents. Et la deuxième chose, c'est que dans les moments de grande crise, il faut des grandes solidarités. Et c'est pour ça que le président de la France doit convoquer les grands patrons français et leur dire « Écoutez, tout le monde morfle, donc vous allez morfler avec nous. Et sinon, en fait, on va perdre. » Et moi, je pense que les Ukrainiens résisteront jusqu'au bout. Mais ce qui m'inquiète, c'est nous, notre capacité à soutenir un effort sur le long terme.
Et pour finir, une taxe sur les super-profits nous permettrait de faire ce qu'il faut ?
Une taxe sur les super-profits, d'abord, rétablira le sentiment de justice. Et pour qu'on tienne sur le long terme un rapport de force avec Poutine et ses soutiens, eh bien, il faut qu'on montre que notre société est juste.
Raphaël Glucksmann, merci beaucoup. J'ai été très content de vous recevoir dans De Chavannes cherche copain.
Vous voyez, on est copains, non ?
Ben, je pense qu'on peut en tout cas essayer de l'être. C'est-à-dire que quelquefois, quand on fait des datings comme ça, des dates, on sait que bon, ben, on peut se dire oui, revoyons-nous, on verra. Mais moi, je propose revoyons-nous.
Avec grand plaisir.
Ça marche. Merci beaucoup. Et je chante même. De Chavannes cherche copain. De Chavannes cherche copain.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.